Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce On va se faire foot 13e numéro. On va se faire foot un peu spécial puisqu'on approche de la fin de la saison et c'est déjà l'heure de tirer des bilans. Donc, avec moi ce soir pour cette première émission bilan quasiment, Giancarlo Bruni à Toulouse, Francisco.
Salut les gars.
Daniel Montero qui malgré la victoire du Benfica, a sorti son maillot du FC Porto.
Et ouais, solidaire, solidaire.
Et donc moi-même toujours fidèle au poste depuis ma salle à manger, mais personne ne le voit grâce à ce fond virtuel exceptionnel. Donc au menu ce soir de On va faire foot, on va vous parler donc championnat portugais, on va vous parler finale de l'Europa League juste derrière moi entre le FC Séville et la AS Roma, et ensuite on vous parlera du dénouement du championnat de France puisque ce sera la 38e et dernière journée ce week-end, et enfin on passera à une large page pronostic. Donc sans plus tarder, on va commencer par le championnat portugais, donc qui a livré son verdict ce week-end. Benfica est pour la 38e fois champion du Portugal, avec juste derrière le FC Porto à 2 points, et Braga donc qui disputera le play-off pour essayer de rentrer en Ligue des Champions. Le Sporting du Portugal se qualifie pour l'Europa League où il retrouvera, on l'espère, le Toulouse Football Club pour une leçon de football à la toulousaine. Et une petite surprise, Arouca, qui finit donc cinquième du championnat. En bas du tableau, j'en sais rien, enfin, il y a des équipes reléguées. Apparemment, Paços de Ferreira et Santa Clara.
Santa Clara.
Et le National Madeira qui jouera donc le barrage pour ne pas descendre. Donc, ma première question, enfin, le premier débat aujourd'hui, c'est quel bilan on fait de cette nouvelle édition du championnat portugais? Quel enseignement tirez-vous? Quelles sont vos surprises, vos révélations de ce championnat? Et quelles sont vos déceptions? Donc, le plus italien d'entre nous a la parole. Daniel.
Giancarlo.
Je sens que ça va être grandiose. Daniel,
Non,
vas-y.
écoute, non, ce qu'on peut dire déjà par rapport à ce championnat portugais, c'est que, bon, déjà, il faut quand même admettre que Benfica a mérité son championnat. Il faut quand même admettre que c'est l'équipe qui a été la plus régulière tout au long de l'année. Sur le plan du championnat. Il termine en plus avec la meilleure attaque et la meilleure défense. Derrière, Porto, ils ont fait un bon championnat, mais ils n'ont pas été aussi réguliers que l'a été le Benfica. Et effectivement, ils ont quand même fait une belle campagne au niveau de la Ligue des Champions. Ils sont quand même ils sont fait battre en quart de finale par le finaliste et peut-être le vainqueur de la Ligue des Champions. On va voir
Non,
dans quelques
non,
jours.
non, 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 non.
On verra dans quelques jours. En tout cas, il est finaliste, l'Inter de Milan. Donc, globalement, cette équipe de Benfica, elle mérite ce titre, je pense. Elle ne l'a pas volé. Et en plus, cette équipe de Benfica, cette année, a su en plus aller chercher des joueurs comment dire, de la formation. Hein, il y a le défenseur central qui maintenant est en équipe du Portugal, Antonio Silva, qui est la révélation en termes de défenseur au niveau du championnat. Et là, récemment, ils sont allés chercher une petite pépite, on ne sait pas d'où elle est sortie. João Neves, qui a 18 ans. Le gars, c'est juste un phénomène au milieu de terrain. Personne ne l'arrête. Il fait un peu penser à João Félix. Donc, globalement, pour moi, le Benfica, voilà, même si c'est dur à l'admettre, en tout cas, ils ont été meilleurs globalement sur l'année et ils méritent leur titre. Après, la révélation pour moi, c'est Arouca. Tu l'as dit en préambule. Finit cinquième du championnat.
Attends,
C'est une équipe.
on fait une parenthèse. On fait une
Non, mais cette
parenthèse.
phrase de. Hein?
Giancarlo,
Cette phrase de.
est-ce que tu sais où se situe Arouca
Ah.
géographiquement?
J'avais dit un rookie. Ah, ah, mais cette phrase est mythique. Cette phrase est mythique. La révélation, c'est Alors.
Arouca. Non, mais c'est mythique.
Ouais. Alors, pour te situer, c'est au nord du Portugal.
Ça va
C'est
se
pas loin
connaître. C'est pas loin de Porto. Entre Porto et
de Porto.
Aveiro,
Ouais,
je dirais presque.
c'est dans la banlieue de Porto, en fait. Et
D'accord.
ouais, c'est vraiment un petit club. Hein.
Ah bon?
Vraiment, tu sais, on a beaucoup parlé de Casapia.
Ouais.
Casapia, cette année, c'était un plus gros investissement en termes de budget que Arouca. Et cette équipe a fini cinquième. Ils vont jouer, je crois, les éliminatoires de la Conference League, hein, Mehdi, c'est ça. Hein,
Ouais, ils sont qualifiés en Conference League, ouais.
où ils finissent deux à la conférence. Donc ils finissent devant Guimarães, qui est quand même une équipe qui est assez habituée à rester dans les places. Européenne aussi. Donc pour moi, c'est la révélation cette année, ça serait cette équipe. Après, la déception, c'est Sporting. Sporting, je crois qu'ils passent vraiment à côté de leur championnat. Ils finissent quatrième aux portes de l'accès avec des champions. En plus, derrière, le Sporting de Braga. Donc, il y a toujours une rivalité des Sporting. On ne sait pas quel est le premier Sporting au Portugal. Bien évidemment, c'est Lisbonne. Mais il y a une rivalité entre eux. Donc là, cette année, ils seront doublés par Braga. Donc, ouais, déception pour moi, c'est Sporting. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans ce club-là en termes d'organisation. Ça a été un peu le bazar, je trouve, au niveau organisation, au niveau du club. Pas au niveau tactique, pas au niveau tactique parce que je pense que l'entraîneur, ils ont un bon entraîneur. Et je pense qu'heureusement qu'il était là pour justement apporter un équilibre à cette équipe. Donc on verra l'année prochaine ce que ça produit. Mais Benfica mérite. Arouca, révélation pour moi. Et Sporting, la déception.
Bah, je vais rebondir sur ce que tu dis. On va laisser finir Giancarlo. Hein. On va garder le meilleur pour la fin sur ce thème.
Merci, Mehdi. Vous n'allez pas être déçus.
Je partage ce que tu dis sur le Sporting. C'est vrai que le Sporting, c'est la déception, entre guillemets, de la saison. Ils ont très mal démarré le championnat. Parce que finalement, bon, tu disais que Benfica, c'était mérité. Je suis d'accord avec toi. Que leur titre de champion, ça vient récompenser leur constance. Quand tu regardes les chiffres, Benfica, ils ont 3 défaites, le Sporting, ils en ont 6. Ils passent pas tant que ça à travers le Sporting, ils ont 3 défaites de plus, en particulier contre les gros, contre Porto. Ce qui fait la différence, c'est le début de championnat et surtout la période de mercato, où en fait, pendant très longtemps, le Sporting ne savait pas qu'est-ce qu'ils allaient avoir comme effectif. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en fin de mercato, notamment, je crois qu'ils ont fait, je me souviens qu'ils ont fait un gros transfert à 40 ou 50 millions vers les Wolves. D'un de leur milieu de terrain. Donc, ils ont dû se réadapter très vite. C'est un peu la même chose pour Porto, qui a raté son début de championnat après de nombreux départs. Et c'est des équipes qui sont revenues au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que c'est une déception, le Sporting, parce que sur les 2 dernières années, ils nous avaient habitués à mieux. Ils avaient fait une année champion, une année l'an dernier, troisième ou deuxième, je sais plus, derrière Porto. Et cette année, effectivement, ils sont passés à travers. Mais c'est une équipe qui prend beaucoup de joueurs. Chaque année perd beaucoup de joueurs. L'été dernier, enfin, il y a une saison et demie, ils avaient déjà perdu Nuno Mendes, puis d'autres, et qui doit finalement ressortir des pépites à chaque fois de son centre de formation pour être compétitif. Donc des fois, il y a on va dire, des espèces de trous générationnels. Ils vont encore perdre des gens cet été. On voit qu'Ugarte est demandé par le PSG, par Chelsea, donc ils vont se faire encore plier au milieu. Est-ce que Pedro Gonçalves va rester alors que c'est leur leader d'attaque? On ne sait pas. Trincao va partir. Puisqu'il était prêté, ils vont encore devoir rebâtir une équipe et c'est très dur à chaque été de rebâtir une équipe. Donc effectivement, c'est une déception, mais qui était quelque part presque attendue. On savait qu'ils n'allaient pas être champions avec ces difficultés-là. Par contre, ils se passent passer devant par Braga, c'était un peu plus effectivement surprenant. Effectivement, comme toi, le titre du Benfica, il est mérité, mais ce que moi je retiens de ce championnat-là, c'est qu'il a été un peu plus passionnant et un peu plus serré que les 2 dernières éditions. Si vous vous souvenez, il y a 2 saisons, le Sporting avait perdu qu'un seul match, ils avaient été invaincus jusqu'à l'avant-dernière journée de championnat, ils n'avaient pas eu de championnat. Et l'an dernier, Porto avait perdu, je crois, en début d'année, mais après, ils avaient fait une série de quasiment 30 matchs sans défaite et ils avaient plié le championnat très très vite. Là, cette année, on a cru que c'était une autoroute pour le Benfica, que c'était le Benfica qui allait se retrouver dans la peau du Sporting et du Porto de la saison dernière. Et puis finalement, pas du tout. Ils ont eu un trou, là, au moment où plus ils avançaient en Ligue des Champions et plus ils se faisaient remonter par Porto, Braga et le Sporting. Et on a eu un championnat plus serré. C'est mérité sur l'ensemble de la saison parce que c'est eux qui ont le plus produit. Sur les 2 derniers mois, un peu comme le PSG en France, c'est pas sûr que ce soit mérité. Porto est revenu comme une balle derrière et finalement, ça se joue à un match nul. L'histoire, puisqu'il y a 2 points d'écart entre les deux équipes. Et que s'il y avait eu égalité samedi, au Golavérage particulier, c'est Porto qui était champion. Donc oui, sur l'ensemble de leur saison, c'est mérité. Surtout, on va dire, avec effectivement, comme tu l'as dit, cette capacité à faire sortir des jeunes maintenant au Benfica. C'était pas quelque chose de traditionnel, mais sur les 10 dernières années, c'est quelque chose d'assez important. Ils n'avaient pas un si gros effectif que ça. Donc moi, je pense que l'an prochain, il va falloir qu'ils confirment. En ayant une forte campagne de recrutement, se faisant pas piller, ça c'est pas dit. Parce qu'on voit déjà que Gonçalo Ramos, par exemple, on a vu que Kylian Mbappé avait demandé à ce que Gonçalo Ramos se rejoigne au PSG. Je ne sais pas si ça sera le cas. Et il proposait notamment un échange avec de l'argent et Renato Sanchez. Donc on verra ce qu'il en sera. Mais on a vu qu'ils n'avaient pas trop de profondeur de banc, notamment sur cette fin de championnat, où ils ont eu du mal à enchaîner les compétitions, la Ligue des Champions, plus le championnat. Donc si c'est une équipe qui ne se renforce pas en étant en perdant plus des joueurs, ça risque d'être compliqué l'an prochain. Et alors ma révélation, c'est plutôt une révélation confirmation, c'est un joueur de Braga, un joueur français qui joue à Braga, que peut-être vous ne connaissez pas, qui s'appelle
Attention.
Banza, qui finit le championnat avec 11 buts, après
Banzai.
avoir marqué 14 buts à Famalicão l'an dernier. Donc voilà, c'est un jeune joueur de 23 ans qui vient de Lens. Voilà, il a fait toute sa carrière à Lens jusque-là. Il est arrivé il y a 2 ans au Portugal et puis c'était pas facile pour lui cette année à Braga puisqu'il n'était pas a priori titulaire. Il a marqué la plupart de ses buts en venant du banc. Ça permet de saluer la belle saison de Braga. Donc il va, on espère, retrouver la Ligue des Champions l'an prochain avec un entraîneur bien connu des Français puisque c'est Arthur Georges qui coach le Sporting Club de Braga. Donc c'est un jeune attaquant qui a pas mal de potentiel. Il avait du mal à percer en France. Il a fait une saison de L2 avec Lens il y a 2 ans. Je crois qu'il avait 2, 3 ans, il avait marqué 7 buts. Et là, il s'affirme dans le championnat portugais. Il faudra voir si l'an prochain, il arrive à avoir un peu plus de temps de jeu avec la multiplication des matchs européens et de championnat pour Braga pour voir s'il confirme définitivement à haut niveau. Et donc là, maintenant, on laisse la parole au génie de l'analyse, à Giancarlo Brugge. Moi,
Impatient.
les gars, je suis épaté par ce que vous pouvez dire et le temps que vous pouvez tenir sur ce championnat. Moi, je suis, je suis vraiment
On parle du
épaté.
cinquième championnat européen quand même, hein.
Ouais, mais en fait, il y a des bons joueurs hein, dans ce championnat, tout ça, je ne conteste pas, mais on s'emmerde quand même. Tous les ans, le championnat se joue entre les deux mêmes équipes. Une troisième tous les 20 ans qui tire son épingle du jeu, c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, le Sporting. Après, ben, ça se joue toujours de la même manière, finalement. Et moi, c'est ce qui me frustre un peu dans ce championnat. Bon, après, j'apprécie de regarder les matchs. Je suis même allé voir un match il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. C'était assez agréable. Il y a du jeu, c'était plutôt sympa hein, entre le Sporting et le Benfica. Et après, derrière l'équipe qui bah, finalement est la révélation, vous m'avez parlé d'Arouca. Moi, j'étais allé voir le classement quand même avant. Hein. C'est quand même une équipe qui, par rapport aux trois gros, on a pris 4 contre le Benfica, 6 contre Braga, 5 contre Porto. Enfin, il y a un fossé entre ben, les équipes qui tirent ce championnat et les autres que je trouve abyssal finalement. Et ce championnat, il est coupé en deux pour moi. Et c'est ce que je trouve dommage et ce qui fait manquer d'intérêt parfois à ce championnat-là. Bon, en dehors de ce contexte-là, ouais, le titre du Benfica, il est mérité. Il n'aurait pas fallu que le championnat dure 2 ou 3 journées de plus. Ouais. C'est la réflexion qu'on s'est fait la dernière fois en allant voir Sporting Benfica. Bon, ils ont fait une mi-temps chacun. Du coup, ils ont réussi à faire match nul. Mais le Benfica, depuis 4-5 matchs, depuis leur élimination en Ligue des Champions, on sentait qu'ils étaient quand même un peu dans le dur. Je pense que c'est lié à l'effectif qui est pas si profond que ça. Et mener une campagne européenne comme ils l'ont menée, ça use les joueurs. Et je pense que voilà, il était temps que le championnat se termine pour le Benfica quand même, parce que Porto aurait pu leur revenir dessus s'il y avait eu 1 ou 2 journées de plus. Et après. Le joueur que j'ai vu évoluer de quelques fois, notamment en Ligue des Champions et puis bien là en championnat récemment, moi c'est le défenseur central du Benfica, là, Antonio Silva, qui je pense va être un très 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 gros client. Ils vont encore se gagner 80 ou 100 millions avec un joueur comme ça. Et ce que je retire, et c'est l'intelligence de ces clubs-là, et c'est dommage que du coup ils évoluent. Dans le championnat portugais, c'est-à-dire que Benfica et Porto, je reviens à cette notion de fossé, en plus des moyens financiers qu'ils ont et de la capacité de formation de très très bons joueurs qu'ils ont, ils sont aussi en plus capables,
et Porto l'avait démontré pendant longtemps, d'aller chercher des joueurs à l'étranger pour faire des très grosses reventes derrière, et puis bah, du coup générer des revenus qui peut les faire durer sur la scène européenne aussi. Donc moi, je ne veux pas faire celui qui considère le championnat portugais comme un championnat mineur, c'est pas ça que je veux dire, mais je trouve que c'est dommage qu'il y ait cette césure entre ces deux locomotives et puis le reste du championnat, parce que ça coupe un peu d'intérêt de manière générale, quoi. Voilà.
Mais là,
Ouais.
juste pour rebondir, Giancarlo, sur ce que tu disais, et pour aller dans ton sens, c'est vrai qu'il y a, y a, y a, y a vraiment une césure dans ce championnat, je suis d'accord avec toi, et il y a un chiffre qui le montre en plus. C'est que quand tu regardes le championnat portugais, les quatre premiers finissent en positif au niveau du goal average, tous les autres sont négatifs. C'est-à-dire que le cinquième,
Ah ouais.
Arouca, de Arouca jusqu'en bas, tout le monde est en négatif. Donc, tu prends le parallèle en France, Rennes finit avec plus 29, etc. Donc, c'est vrai ce que tu dis sur le fait que ce soit dommage qu'il y ait un écart aussi important. Ouais,
Parce
mais
que.
je pense qu'il y a un problème aussi. On a d'autres modèles de championnat en Europe où tu as une redistribution des droits télé qui est beaucoup plus équitable. Les droits télé, là, ils sont partagés entre les trois gros. Essentiellement, tu as 80 à 90% des revenus de droits télé qui sont partagés entre Benfica, Porto et Sporting, et il ne reste rien pour les autres. Et on sait très bien que dans la plupart des championnats européens, en tout cas dans le championnat français, dans le championnat anglais et dans le championnat allemand, c'est pas du tout ça. Championnat d'Espagne, ça ressemble à ça. Championnat italien, ça ressemble à ça. Tout à fait. Mais moi, d'ailleurs, je trouve assez incroyable que les Portugais arrivent à se passionner autant pour ce championnat, qui est la fête. À Marrakech Pombal pour le 38e titre du Benfica, finalement, qui est un truc d'une banalité incroyable, comme si c'était la première fois qu'ils sont champions. Je trouve ça dingue. Bah, Alors tu vis à l'île. qu'à Mais Paris, il dis, n'y a tu eu vis à
aucune
Lisbonne.
fête
pour le
Ouais.
record de titre d'un club en championnat de France. C'est quand même assez incroyable, en fait.
Mais
Ouais, mais
c'est la ferveur des supporters. C'est un peu comme à Marseille. Ce week-end, ils ont fêté les 30 ans de la Ligue des Champions. Ça a été le
oui.
bordel à Marseille.
Oui.
Voilà. Ici, c'est pareil. C'est la ferveur
Non mais
du
excuse-moi,
foot, en fait. Les gens vivent le foot.
c'est parce qu'à Marseille, ils n'ont rien d'autre à fêter, ils n'ont pas gagné le titre depuis 10 ans.
Ok,
Bon.
mais c'est la ferveur des supporters.
Ben d'accord, mais quand tu prends les données brutes, le TFC a gagné plus de titres que Marseille et Lyon réunis ces 10 dernières années. Donc
Voilà, je rentre, on rentre. C'était pas dans le menu du débat, ça.
c'est quand même exceptionnel. Donc bon, mais puisqu'on parle du TFC et donc de la prochaine Europa League, attention, transition, nous passons à notre deuxième thème, et donc à la finale de l'Europa League, donc qui aura lieu demain, 31 mai, entre le FC Séville, recordman des trophées en Europa League, hein, puisqu'ils en sont à 6 trophées en quasiment 15 ans. C'est quand même assez exceptionnel ce que fait ce club sur l'Europa League, c'est leur compétition. Et José Mourinho, donc, qui peut lui aussi gagner une 6e Coupe d'Europe. Donc, on va dire un choc des titans en Europa League, hein, finalement. C'est presque l'affiche que rêver que pouvait nous offrir cette compétition après les phases de poule des Ligues des Champions et le fait que les troisièmes aient été reversés en Europa League. Donc, comment voyez-vous cette finale? Est-ce que l'Europa League ira, comme c'est derrière, là, de nouveau à Séville, aux portes de l'Alcazar, ou est-ce qu'ils iront fêter l'Europa League dans le Cirque Massimo à Rome? Donc, Giancarlo, cette fois-ci, c'est toi qui démarres.
Alors là où je te rejoins, c'est l'opposition va être très intéressante. Un club, alors je ne sais pas m'expliquer pourquoi, parce que c'est jamais les mêmes joueurs qui la gagnent, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est quoi? C'est l'administration du club qui est rodée pour cette compétition et qui arrive à la gagner régulièrement. Bon, pour moi, ça reste un mystère. En tout cas, les faits sont là et bon, c'est une équipe qui sait gagner cette Coupe d'Europe. Et puis en face, ouais, Mourinho, qui n'a jamais perdu une finale de Coupe d'Europe, qui sait jouer une finale de Coupe d'Europe, qui sait les gagner. Donc l'opposition va être intéressante. En plus, il va y avoir une vraie opposition de style, parce que quand même les derniers matchs de Séville, bon, ils ont produit autre chose que dans la première moitié du championnat, où on a eu très très peur. Enfin, ouais, très peur. Au fond, je m'en fous, moi, parce que je ne suis pas si bien, mais pour un club de ce standing-là, à un moment donné, on se demandait s'ils allaient pas descendre et jouer le maintien très, très, très clairement, hein, à 15 journées du championnat encore, de la fin du championnat.
Donc, et puis la Roma, qui a montré sur notamment la demi-finale, en faisant un match à l'ancienne contre le Bayer Leverkusen, à la Mourinho, quoi. Je crois qu'ils ont fait une frappe dans le match. Ils en ont subi 25 ou 26, mais ça gagne, quoi. Je pense que lui, dans son esprit, c'est assez clair. La manière dont il va jouer cette finale-là, c'est uniquement pour la gagner. Après, là où je me demande si ça sera possible, c'est est-ce qu'il a les joueurs vraiment pour le faire? Contrairement aux équipes qu'il a eues précédemment, est-ce qu'il a les joueurs pour pouvoir tenir quand même de la pression, parce que Séville, c'est une équipe qui joue, c'est fort sur les côtés. Je sais pas s'il va pouvoir tenir sa tactique habituelle, ou alors il va nous sortir quelque chose d'autre, parce qu'il en a l'habitude aussi, il est capable de nous sortir un autre schéma et puis une autre animation. Moi, je donnerais un avantage à la Roma. Parce que justement, cette capacité de Mourinho à inventer quelque chose sur un match, moi je pense qu'ils peuvent les faire déjouer et puis qu'ils peuvent une victoire écrasante 0-0 au pénalty, tu vois.
Donc, c'est ça ton score? 0-0 au pénalty?
Non, mais moi je donne un très léger avantage à la Roma, une victoire d'un but d'écart ou au pénalty, quoi.
Ok, je laisserai finir Dani. Alors, je te rejoins sur ta statistique. Effectivement, Mourinho n'a jamais perdu de finale, mais c'est là où ça va être extraordinaire. Séville non plus. Donc, il y en a un qui, pour la première fois, va perdre une finale demain. Et donc voilà, il va y avoir un côté novateur, un truc historique demain. Il y en a un
Ou
qui va
pas, s'il y a match
être
nul.
en finale et l'autre qui va connaître sa première défaite. Alors je te rejoins totalement sur Séville. Hein. Ils ont fait un début de saison calamiteux où Lopetegui s'est fait virer. Ils ont récupéré Sampaoli, il s'est fait virer aussi. Et finalement, c'est avec le troisième entraîneur qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Ils ont un effectif en qualité qui est supérieur à la Roma. Moi, je pense qu'il n'y a pas photo, que ce soit derrière, même s'ils n'ont plus leur défense centrale de la grande époque, Toto Schillaci, Adil Rami, ils ont quand même une défense centrale incroyable. Et ils ont surtout deux latéraux hyper offensifs qui sont champions du monde, que ce soit Acuña, qu'on a bien connu au Portugal parce qu'il jouait au Sporting, il jouait plus haut à l'époque, il jouait ailier gauche, ou Montiel qui nous a mis le dernier péno en finale, Père Bernard, hein, Montiel l'Argentin. Ils ont quand même. Ils ont quand même deux, ils ont quand même une super défense
Vidéo gag.
et moi je pense que c'est une des clés du match. On a deux super, super, super gardiens. On a deux gardiens de niveau mondial. Que ce soit Rui Patricio, même s'il a un peu baissé ces dernières années, qu'il a perdu sa place en sélection. Et surtout, il est là juste derrière moi, Yacine Bounou, et c'est pas parce que je suis chauvin, on sait tous qu'il fait partie actuellement des trois, quatre meilleurs gardiens du monde. Et on sait que les finales, ça joue en partie sur les arrêts des gardiens. Que ce soit Rui Patricio à l'Euro 2016, que ce soit malheureusement Emiliano Martinez en finale de la Coupe du Monde, tu gagnes parce que tu as le gardien qui va te faire l'arrêt ou les deux arrêts du match. Alors c'est vrai qu'il va falloir que la Roma fasse ce type de même match contre les Leverkusen, hein, soit hyper résilient en défense et qu'ils arrivent avec Rui Patricio derrière et puis l'ensemble de leur défense à tenir bon et à marquer, j'ai envie de dire, en étant hyper efficace. Maintenant, pour être hyper efficace, il faut que Bounou se trouve, et je suis pas sûr que Bounou se trouve. Toi, tu parlais de séance de tir au but, on connaît l'efficacité de Bounou sur les séances de tir au but, sans doute c'est supérieur à celle de Rui Patricio. Je suis pas sûr que sur une séance de tir au but, la Roma s'en sorte. Donc il va
Mais
falloir. Ouais, vas-y.
tu crois qu'avec les joueurs qu'ils ont la Roma, Mourinho, il peut se permettre de retenter de jouer comme il a joué contre les Leverkusen? Moi, je pense qu'ils pourront pas tenir cette pression-là
Ah ben, je suis
sur un
d'accord.
match de
Je suis d'accord avec toi.
finale. Et c'est ce qui me fait dire que il va certainement chercher à inventer autre chose.
Il peut pas leur laisser totalement le ballon.
Non,
Parce qu'en
je
plus,
pense pas.
ils ont des joueurs au milieu de terrain qui leur permettent d'avoir le ballon. Ils ont des joueurs devant, physiquement. Ils sont hyper denses. C'est pareil. L'avant-centre marocain, El Nesri, il revit depuis qu'ils sont au troisième entraîneur. Il enchaîne les buts et on sait qu'au duel, hein, c'est pas Rubén Dias qui dirait le contraire, on sait qu'au duel, il te mange si tu le laisses imposer son physique. Donc il va falloir, à mon avis, que Mourinho, effectivement, change quelque chose pour pas que le FC Séville ait le ballon trop longtemps. Sinon, il risque de prendre un sacré grain. Bon, moi, je donnerais un léger avantage au FC Séville. Je vois le FC Séville emporter 2-1. Ils étaient un peu dans la même configuration dans leur dernière victoire il y a 2 ans. Ils étaient contre une équipe italienne, l'Inter, hein, ta grande copine l'Inter d'Antonio Conte, qui n'était pas une équipe qui produisait énormément de jeux. Et pourtant, ils avaient d'autres atouts offensifs. Hein. C'est quasiment la même équipe de l'Inter qui se retrouve en finale de Champions League cette année. Et ils avaient battu au métier 2-1. Donc là, je pense qu'ils vont les battre aussi au métier 2-1. Donc bon, je pense que Dani va donner la Roma, comme d'habitude, mais Dani, je t'écoute.
Ouais. Non, mais vous avez tout dit, hein, les gars. Et oui, je vais donner la Roma. Moi, je suis d'accord sur l'opposition de style. Je pense qu'on va assister vraiment à une opposition de style entre Séville et Roma. Séville, en fait, ils finissent 11e du championnat, je crois. Ils sont 10e ou 11e du championnat. Ils font un championnat vraiment en dents de scie. Et la Roma finit quand même 6e. On attend la dernière journée. Mais c'est quand même une équipe qui s'est battue jusqu'à pas très longtemps pour les places en Ligue des Champions. Et je regardais un peu les stats. Cette année, Séville en championnat, ils prennent beaucoup de buts. Alors, c'est vrai que la compétition européenne, c'est différent. Séville est en finale. Et je suis d'accord avec toi sur l'effectif. Sur le papier, Séville a un effectif de fou. Je regardais, on en parlait il y a quelques émissions en arrière et je vais les regarder pour ce match-là. Effectivement, ils ont des joueurs de fou. Oliver Torres, Acuna, enfin bref, il y a de la qualité sur le papier. Et
Rakitic.
je trouve quand même que d'un point de vue maturité tactique, de jeu, la Roma, à l'instant, est devant Séville. Et José Mourinho, justement, en fin tacticien, je pense qu'il va mettre en place un schéma pour éteindre cette équipe de Séville. Il
Et
faut quand même rappeler que Séville.
quelle est pour vous l'équipe qui a le plus à perdre demain? Parce que finalement, quelque part, il va y avoir une pression sur les deux équipes parce que c'est leur seule chance maintenant d'accéder à la Ligue des Champions. C'est mort pour la Roma via le championnat. C'est mort pour
Non, mais
Séville
c'est pire que ça.
via le
C'est
championnat depuis très
pire que
longtemps.
ça. Mais dis, c'est pire que ça parce que l'enjeu pour Séville, il est encore plus important parce que
Moi, je crois.
Séville étant 10e du championnat, ils n'ont aucun accès aux compétitions européennes. Donc la seule
Ah
issue, c'est le gagner la finale. Alors que la Roma,
ouais.
même s'ils perdent, ils sont en Europa League.
C'est le seul moyen de sauver. Non, ouais, je suis d'accord. C'est Séville qui a le plus à perdre parce que
C'est Séville, clairement.
c'est le seul moyen de sauver leur saison.
Eh
La
bien, je ne suis pas
Roma,
sûr, moi.
bon,
Pas sûr, moi.
ils font une saison honorable, la Roma. Avec l'effectif qu'ils ont, avec l'effectif qu'il a, il va faire une cinquième ou sixième place. Enfin, moi, je trouve que c'est bien. Cinquième, sixième place finale de l'Europa League. Ouais, tu ne pourras pas
Et
dire qu'il a
attends.
fait une saison pourrie. Alors que si
Ah non, non, je
Séville
dis
sort
pas
la
ça.
finale.
Je dis pas ça. C'est vraiment
Ah.
dans l'idée. Tu vois, la Roma, ils ont été à la bagarre toute l'année pour la Ligue des Champions. Et s'ils perdent demain, ils l'auront pas. Donc, est-ce que ça ne sera pas plus difficile à vivre pour eux que pour Séville, qui de toute façon, ils n'ont pas été à la bagarre du tout. Voilà, ils étaient programmés pour finir troisième ou quatrième du championnat d'Espagne. Ils finissent très loin parce qu'ils se sont manqués. Est-ce que pour eux, finalement, c'est un tel rattrapage, ils n'espéraient pas être là vu leur début de saison. Eux, ils ont tout à gagner. Est-ce que l'équipe qui n'a pas tout à perdre, c'est pas la Roma? On peut le voir dans les deux sens, mais.
Moi, je suis d'accord avec Giancarlo. Ils n'avaient pas l'effectif cette année pour être dans les quatre premiers. Et c'était une surprise d'ailleurs qu'ils soient au combat aussi longtemps pour y accéder. Et attention, la Juve a été recalée derrière avec la pénalité de points parce que sinon, la question ne se poserait même pas. Ça serait un candidat de plus devant la Roma.
Alors, Danis, quel est ton score?
Moi, je pense je donnerais un. J'hésite à. Je dirais 2. Ah, mais tu as déjà dit 2-1, toi.
Non, moi j'ai dit 2-1 pour Séville.
Ah, pour Séville. Non, moi, je dis 1-0 pour la Roma.
On rappelle quand même que les clubs italiens peuvent encore faire le grand chelem. Enfin, ils peuvent encore. Ils sont en position de faire le grand chelem et que c'est la première levée demain.
Et
Effectivement,
attention.
on l'emporte.
Et attention, Mehdi, apparemment Dybala serait présent sur la feuille de match.
Ouais, bon, ça fait plus frémir personne, ça.
Mais
T'as vu ma
ouais,
réaction?
mais pour. Non, mais ok.
Alors, si tu
Ouais,
veux, moi, je suis
mais.
défenseur de Séville, on me dit Dybala sur la feuille de match, ça m'en fait bouger
Mais
une centaine
mets-toi.
de
Ouais, mais
kilomètres.
mets-toi à la place du joueur, parce que Dybala, ça fait un moment qu'il ne joue pas. S'il a l'occasion de jouer la finale de la Ligue Europa, je peux te dire qu'il ne va pas passer à côté. C'est quand même un grand joueur. Il
Alors là,
a de
je trouve que
la qualité.
tu t'avances bien vite. Non, je te dis pas que c'est un joueur qui a pas de qualité, mais il a un mental de poulpe, quoi.
En tout cas,
Donc,
moi, pour en revenir à Dybala, je sais qu'il a une clause libératoire à 12 millions d'euros seulement en cas de départ hors de l'Italie. Moi, je suis Damien Comoli, je le prends tous les jours. Voilà. Pour le TFC, pour le TFC à 12 millions. Moi, je
on est
vous le
d'accord.
conseille, c'est extraordinaire.
On est d'accord.
Et bien donc, Toulouse oblige, donc on va effectivement enchaîner sur la Ligue 1. La Ligue 1 qui a rendu une grande partie de son verdict et de ses strapontins. Ce week-end, donc, le PSG, une nouvelle fois champion de France, son 11e titre. C'est désormais le club le plus titré en France, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. Lens accède directement à la Ligue des Champions et Marseille jouera donc le tour préliminaire, puisque même en cas de victoire de la Roma n'étant pas qualifiée par le championnat pour la Ligue des Champions, Marseille devra passer par deux tours préliminaires, je crois, pour espérer accéder à la Ligue des Champions. Trois clubs descendent d'ores et déjà, hein, Angers depuis à peu près depuis mi-novembre, on sait qu'ils sont en Ligue 2. Trois, et aidez-moi, j'ai oublié le dernier pour l'instant qui descend.
Ajaccio, Ajaccio.
J'ai oublié qu'Ajaccio est en LO. Donc il reste une place à prendre dans la charrette
Ça va faire plaisir à nos amis corses.
place à prendre dans les. Ouais, mais pour l'instant, j'ai pas d'amis corse, donc tout s'explique.
Ah
Il reste une place à prendre dans la charrette pour descendre. Il se jouera entre Nantes et Auxerre. Hein. C'est quasi le duel qu'on avait prévu depuis à peu près 2 mois et demi. Et une place à prendre pour l'Europe où les cartes ont été rebattues. Hein, où vraiment, Monaco, dans les premières émissions, on avait fait un débat pour savoir si Monaco allait terminer deuxième ou troisième. Et donc, on ne sait même pas s'ils ne vont pas terminer septième, puisqu'ils nous font une fin de championnat vraiment digne d'un relégable. Et donc, Monaco, Rennes, Lille, et même encore Lyon, qui peut espérer sur cette dernière journée venir coiffer tout le monde sur le fil et être européen. Donc, on va faire vite, on va faire simple. Qui voyez-vous européen et qui voyez-vous descendre? On commence par quoi? Par la descente? Ça va aller plus vite?
Ouais,
Alors,
je
Giancarlo, pour la
prends
descente.
Nantes. Évidemment, Nantes. Nantes, Nantes, c'est une farce. Je veux dire, Nantes, c'est une farce. Depuis 8 matchs, c'est une farce. Donc, si ces mecs-là restent en Ligue 1, je comprends rien. Et pour la place européenne, Lille. Lille, parce qu'ils jouent trois à la dernière journée, ils ont un point d'avance. Donc,
Ouais, mais
voilà.
ils terminent quatrième, donc ça veut
Non,
dire qu'ils jouent
mais
Europa League direct.
ils sont en
Oui.
Europa League, hein. C'est
Ouais,
entre
et
Rennes
donc
et Monaco, en fait.
qui est cinquième alors? Qui prend la cinquième place entre Rennes,
Rennes.
Monaco et Lille?
Rennes. Rennes, Monaco, ils sont portés disparus. Pareil, ils ne méritent pas d'être européens, ces mecs-là, au fond, au
Ils
final.
jouent qui Rennes le dernier match? Je peux regarder.
J'ai pas vérifié. Je sais que Lille va à 3.
Rennes joue à Brest, joue à l'extérieur à Brest.
Ouais, on a vu que Brest, c'est le dernier match,
Et
Brest.
Monaco.
Ils sont chauds patates. Hein.
Oui,
Ils ont gagné à
ouais.
Marseille. Ils jouent totalement
Et
libérés.
Monaco reçoit Toulouse.
Voilà. Bah, à Monaco contre Toulouse, c'est plié.
Ouais.
Non,
Donc,
Monaco, il part
t'as
contre Toulouse.
compris pourquoi? Donc, Lille, Rennes. Voilà.
Ok.
Ouais, et Lyon, c'est pas possible. Lyon, c'est pas possible. Il faut un concours de circonstances. Il faut que tout le monde perde. Et
Non,
qu'eux gagnent par
mais Lyon,
3. Ils
c'est.
sont à 3 points de Rennes. Hein.
Ouais, mais au goal average, ils sont morts, donc ça
Ouais,
passera pas.
bon. D'accord. Annie?
En fait, ouais, je regardais Lyon, pour eux, c'est mort parce qu'ils sont au goal average, ils sont à 20 et Rennes est à plus 29. Donc, même s'ils montent à 65 points, Rennes restera devant. Donc, ça va se jouer entre Rennes et Monaco.
Ça dépend le nombre de buts que prend Rennes s'ils perdent et le nombre de buts que marque Lyon s'ils gagnent.
Ouais, il y a 9 buts d'écart.
Bah, t'es pas dans le championnat portugais, mais dis quand même.
Ouais, c'est.
Ils ont la casette. Ils ont la casette qui, malgré une saison pitoyable de son équipe, est quand même à 26 buts. C'est-à-dire que
Ouais,
le
non,
gars,
j'y
à chaque
crois
fois
pas.
qu'il joue en
Ouais.
France, il claque plus de 25 buts quand même.
Ouais,
C'est
non,
vrai.
j'y crois pas. Moi, je pense que Rennes va battre Brest à l'extérieur, même si Brest, c'est solide, je suis d'accord, mais je pense qu'ils vont les battre. Et Monaco reçoit Toulouse, donc ouais, je sais pas, Monaco, vu ce qu'ils vont en ce moment, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent un vieux match nul avec Toulouse,
Mais
qui est la
pourquoi vieux match
révélation du
nul?
championnat, les gars. Hein.
Un vieux match nul, mais n'importe pourquoi on gagne, pourquoi Toulouse gagnerait pas à Monaco?
Oh, tout est possible à Monaco en ce moment, donc oui, tu as
Oui,
raison. Mais en tout
ils
cas,
en prennent
moi, je
4
pense
contre
que.
Montpellier, donc je vais te dire à domicile. Donc
Ouais. Moi, je pense que Rennes, Rennes finit cinquième. À mon avis, c'est Rennes qui va
ouais.
jouer l'Europe. Après,
Ouais, et puis
sur
quand tu
les.
pour la descente, ouais.
Quand tu
Après,
regardes le
sur les.
championnat, quand tu regardes le championnat de Rennes, quand même, c'est quand même eux qui, dans l'ensemble, sont les plus réguliers, quoi. Ils ont pas eu de gros trous, quoi, par rapport aux autres équipes. Donc, je trouve que ce serait logique. Pardon, Dani,
Ouais.
vas-y.
Non, non, je t'en prie. Et après, ouais, sur l'équipe qui descend, moi je suis partagé parce que même si je pense que Nantes ne mérite pas de rester en L1, je suis d'accord avec Giancarlo. Il faut vraiment le championnat vraiment pourri. Il mériterait d'aller faire un tour en L2. Mais je pense qu'ils vont passer en fait. Pourquoi? Parce que Nantes va jouer Angers. Angers, c'est une catastrophe. C'est vraiment, voilà, ils prennent 80 buts sur la saison. Et là, je pense que Nantes, voilà, ils ont pas fait un mauvais match, Nantes, hein, sur le dernier match qu'ils font. Ils sont un peu réveillés tard, mais je pense que là, ils vont aller chercher la victoire, à mon avis. Après, Auxerre joue Lens à domicile. Lens va pas vouloir finir la saison sur un échec, vu
Ils vont
comment ils ont
perdre.
été lancés. Et
Ils
pour
vont
faire
perdre.
plaisir vraiment à leur public, ils vont être en Ligue des Champions, je pense, avoir à cœur de finir la saison
Quel public?
proprement.
Ils jouent à Auxerre, Lens. Ils jouent à
Ils jouent
Esparta, Lens.
Auxerre. Ouais. Non, mais
Ils jouent
le
à Esparta.
public, l'Ansois qui va suivre le dernier match de championnat. Après, attention, il y a une autre donnée aussi que je voulais vous donner, c'est que même s'ils font match nul Auxerre, c'est-à-dire qu'ils auraient 36 points, Nantes, en gagnant, aurait 36 points au goal average, Nantes est meilleur qu'Auxerre, donc ils passeraient. Donc,
Auxerre,
même s'ils ne méritent pas,
ils vont
à mon avis,
gagner.
c'est Nantes qui va passer.
Tu veux, moi, sur la descente, la donnée la plus importante que tu as évoquée, c'est que là, aujourd'hui, Nantes, pour rester en Ligue 1, ils doivent absolument gagner le dernier match. Parce que
Ah,
même,
c'est sûr, c'est clair.
voilà, s'ils ne gagnent pas le dernier match, c'est mort. Bon, de toute façon, ils ont 2 points de retard, donc ils doivent absolument gagner le dernier match. Mais si,
Non,
pareil,
non, c'est.
ils avaient fait match nul à Lille, 1 point leur suffisait pour éventuellement, en cas de défaite d'Auxerre, leur passer devant en prenant 1 point contre Angers et passer au goal average. Là, ils sont obligés de gagner avec 2 points de retard. Et
Mais
encore
tu
une
vois,
fois,
Mehdi,
non,
ceci dit,
attends, je
Lille
termine.
jouait. Lille.
Nantes,
Ouais.
ils n'ont pas gagné un match depuis le 19 février. Ils en ont joué des matchs, hein, et ils en ont joué des pipes. Hein. Ils n'ont pas attendu le dernier match pour jouer la pipe de l'année, pour jouer Angers. Ça veut dire qu'ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné à
Tu, mais,
domicile.
tu, mais, est-ce que, mais
Ils
tu
n'ont
as
pas
vu,
gagné
tu as
contre
vu
les
le
champions.
match, tu as vu le match contre Lille?
Ouais, j'ai vu le match contre Lille. Alors, très honnêtement, il marque un but où le défenseur de Lille, c'est juste vidéo gag. C'est-à-dire qu'il arrive pas, il veut contrôler le ballon pour mettre une passe en retrait, il tombe tout seul et le mec de Nantes va tout seul au but. C'est la seule frappe qui bat du match. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas marqué un but depuis la finale de la Coupe de France. Entre-temps, ils n'avaient pas marqué un but
Ouais.
depuis la demi-finale de la Coupe de France. Le seul but qu'ils marquent, c'est un but que même l'équipe avec qui tu as joué en tournoi de la péninsule ibérique aurait marqué. C'est pour dire.
Mais t'es un
Ils avaient un.
enfoiré.
Vu le niveau de Nantes en ce moment, honnêtement, personne ne s'attendait à ce qu'ils sortent ce match-là. Donc ils perdent effectivement, mais ça c'est.
Non, et puis tu sens qu'il y a un truc où en fait rien ne tourne pour eux. Parce qu'effectivement, contre Lille, ils se dépouillent un peu, ils sont pas loin et tout. Mais t'as ces deux pénaux. Le deuxième qui est gaguesque, où il y a pénaux. Hein. Moi, je trouve, à la fin, il fait faute. Hein. Il prend jamais la balle, il décapite le mec. Il y a pénaux, il n'y a aucun problème. Mais où le péno est à retirer parce que même malgré l'arrêt d'Alban Lafont, il est encore fautif parce qu'il est hors de sa ligne avant que le mec frappe. Donc tu sens qu'il n'y a rien pour eux, tu vois, qu'il n'y a rien qui tourne en leur avantage. C'est visiblement les dieux du foot, ils ont décidé qu'ils allaient descendre, quoi. Et tu parlais d'Angers, hein, j'ai vu aussi le dernier match d'Angers contre Troyes. Ils font un super match, Angers, et ils marquent des buts de dingo. Il marque une frappe de l'extérieur du pied en pleine lucarne, une frappe enveloppée sur le deuxième but en pleine lucarne. Les mecs, ils jouent libérés. Le seul objectif qu'ils se sont donné, c'est de faire descendre Nantes. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est quand même un derby, samedi,
Ouais.
Nantes-Angers. Et qu'un derby,
Ouais.
même si les mecs, ils n'ont rien à jouer, ils ne vont pas venir pour le perdre, les Angevins. Donc, ils savent même qu'en faisant match nul, ils font descendre Nantes. Donc, les mecs, ils vont les attendre. C'est un Nantes qui est obligé de jouer et il n'y a aucun fond de jeu dans cette équipe. Ils vont les contrer et ils vont les envoyer en Ligue 2. En ce qui concerne l'Europa League, effectivement, je pense que Lille, là, maintenant, ils sont dans un fauteuil. Je pense qu'ils méritent, parce qu'honnêtement, c'est une des équipes les plus joueuses de l'année. Ils ont un super buteur, Jonathan David. Ils ont des ailiers qui créent des. Qui dribble, qui provoque, Adam Ounas et bah, des fois Timothée Weah qui est arrière-gauche. Vraiment, c'est une équipe hyper offensive, qui est sans doute celle qui mérite le plus de terminer quatrième entre Monaco qui ne fait plus rien depuis 2 mois et demi et Rennes qui a eu un gros trou d'air. Je pense que si Lille finissait quatrième finalement, sur l'ensemble du championnat, les quatre premiers, ça serait les quatre meilleures équipes de l'année et ça serait assez récompensé. Et je pense qu'effectivement, Rennes va terminer cinquième, va jouer la Ligue Conférence. Je pense que c'est une Coupe d'Europe qui leur ira bien, dans laquelle ils peuvent briller, peut-être espérer aller très loin, en quart de finale ou demi-finale. Et tout le monde sera content.
Il y a un truc que vous n'intégrez pas, c'est qu'Auxerre, ils vont battre Lens ce week-end. Parce que Lens, moi je suis pas d'accord, là où je suis pas d'accord avec Dany, Lens, ils ont rien à jouer,
Ah,
finir
ils
dans
vont
leur
venir. Moi, je suis d'accord avec toi. Là,
Ah
c'est
ouais,
après quelque chose, hein.
ah
Bon, on passe au prono. Enchaînement tout trouvé, hein. On va parler de top 14 et donc de Toulouse. Hein. Pour savoir, donc, du coup, avec les barrages du top 14, qui va rejoindre Toulouse et La Rochelle en demi-finale. Voilà, donc on a une première affiche entre le Stade français et le Racing, un derby francilien, et un deuxième barrage entre Lyon et l'Union Bordeaux-Bègles.
ouais.
Donc, vas-y, Giancarlo, c'est toi qui nous donnes tes deux premiers pronos. Bon match, hein. Belle purge.
Ouais.
On peut vite.
moi je mettrais Racing. Racing parce que c'est une équipe sur les trois quarts, enfin c'est une équipe qui marque énormément d'essais quand même. Tu regardes, c'est 30 ou 40 pions à chaque match, hein, ça envoie du jeu. Puis ça va être
Ils en prennent aussi, hein.
ça va être intéressant comme opposition. Le Stade français, c'est un peu plus solide, c'est peut-être un peu plus solide devant. Et moi, je mettrais un petit avantage Racing. Et ça croise avec Toulouse, du coup, hein, Racing Stade français.
Exactement, exactement.
Ouais. Donc, je pense qu'on aura un Toulouse Racing en demi. Et ensuite, je mettrais un avantage au Loup contre l'UBB. Parce qu'ils font quand même ils font quand même une saison très correcte dans l'ensemble. Ils finissent troisième. Ouais, c'est eux qui finissent troisième, hein, du coup,
Ouais.
ouais. L'UBB, ils ont quand même laissé des plumes dans la course pour essayer d'accrocher cette sixième place. Donc, je pense qu'en termes de fraîcheur, le Loup, ils auront des joueurs plus frais aussi. Et puis, ça viendrait quand même couronner 5-6 saisons où le Loup, ils font quand même des bons championnats. Et où là, je pense qu'atteindre une demi, ils sont jamais allés en demi, hein, je crois.
Ils sont
Ils sont
jamais
jamais
allés
en
en
phase
barrage.
finale. Ouais. Donc là, atteindre la demi, je pense que voilà, ça viendrait couronner le travail qui est fait dans ce club-là depuis 5-6 ans. Et donc on aurait un Loup La Rochelle. Par contre La Rochelle, je pense que ça va être light. Hein.
Je sais pas, je suis
Voilà.
pas sûr. Je suis pas aussi sûr que toi. Dany? Bon, Dany, tu vas nous dire le Racing, hein.
Effectivement, moi sur le match Lyon-UBB, je suis Giancarlo. Je vois Lyon passer tranquillement contre La Rochelle. Et ça peut être, je pense, l'équipe surprise de ce championnat. Ils vont se retrouver peut-être en finale. Je les vois passer en finale. Contre qui? Bah ouais, je vois le Racing passer contre le Stade français. Même si c'est deux équipes qui, en termes de performance, finissent quasiment avec le même nombre de points, ils ont eu un parcours un peu similaire. Ces deux équipes qui se ressemblent un peu. Mais je pense un petit avantage au Racing sur l'expérience de certains joueurs qui peuvent faire la différence sur ce match-là. On espère un Russell en forme parce que des fois il a quelques mauvaises surprises. Mais si en tout cas l'équipe du Racing est concentrée et en forme, à mon avis, devrait passer. Après, contre Toulouse, je ne sais pas.
Ah ben nous on sait,
Voilà.
si tu veux on peut
Écoutez, moi je pense, alors
contre Lyon.
sur Stade Français Racing, vraiment, alors sur le papier c'est une affiche alléchante, mais sur ce qu'on a vu hier, vraiment, il ne me tarde pas de voir ce match. Parce qu'on a vraiment vu, excusez-moi le terme, deux équipes de merde hier. pas hier, excusez-moi, avant-hier. Vraiment, le Stade français, ils ont été capables de perdre contre l'équipe C de La Rochelle. Vraiment, alors, contre toute attente. Il y avait des mecs qui jouaient leur premier match en pro et tout. Et qu'ils ont pris. Et les mecs ont été capables de perdre contre les 5 dernières minutes en prenant 2 essais gags. Donc je me dis, waouh, quoi. Et le Racing, alors avec une équipe mixte, ils se sont fait défoncer contre Clermont à la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que Giancarlo, tu mettais l'accent sur ça tout à l'heure. Effectivement, ils ont une très très grosse ligne de trois quarts, le Racing. Sans doute ce qui se fait de mieux avec le Stade Toulousain en termes de trois quarts. Mais alors devant, c'est très très léger, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir une vraie opposition de style parce que le Stade français, ils sont très forts, effectivement. Si le Racing, ils arrivent à faire jeu égal devant et donc à garder le ballon, à avoir autant le ballon que le Stade français, je pense qu'ils vont passer assez facilement parce que le talent des lignes arrière fera la différence. Par contre, si le Racing doit défendre parce que le Stade français porte un peu plus le ballon, ça va être très, très, très compliqué. Tu parlais de Finn Russell, Dani, effectivement, quand ils ont le ballon, c'est un magicien. En défense, c'est des portes de saloon, Finn Russell.
Ah non, mais oui.
Le mec, je ne sais pas.
Quoi? Quand je parlais.
Il
Ouais,
doit
non,
avoir
mais
la
là, je suis
statistique
là-dessus.
du plus faible nombre de plaquages de la saison. Tu vois, c'est un truc incroyable, ce gars. Donc.
Non, je te suis là-dessus. Par contre, il peut faire la différence s'il est en forme sur le jeu au pied. Et
Mais même sur le
si,
jeu au pied,
si le Racing.
sur le jeu au pied, c'est des matchs qui se jouent sur les buteurs. Je pense que Joris Segond et Morgan Parra sont des meilleurs buteurs que les buteurs du Racing, tu vois. Donc moi, je vais donner vraiment un très, très,
Je sais
très
pas
léger
ça.
avantage au Stade français. En plus, ça m'arrange parce que je pense qu'on les défonce en demi-finale sans aucun scrupule. Et d'ailleurs, je pense que honnêtement, alors je suis d'accord avec toi, je donne aussi Lyon gagnant contre Bordeaux-Bègles parce que Lyon, je pense que c'est quasiment l'équipe, c'est une des, franchement, ils sont à leur place dans les trois premiers. C'est une des équipes les plus complètes. Devant, c'est solide. Derrière, c'est hyper solide aussi, notamment avec Kusova. Donc, ils sont très, très, très durs à jouer. Par contre, ils sont capables du meilleur comme du pire, quoi. Il y a 2 ou 3 journées, il y a 3 journées, ils doivent jamais l'emporter contre l'USAP à domicile. C'est du vol qualifié, quoi. La fin du match et l'arbitrage à domicile dont ils profitent. Donc, ils sont capables de passer à côté du match de manière assez inexplicable. Donc, sur le papier, sur ce qu'ils ont montré sur ces dernières journées, à mon avis, ils sont devant Bordeaux-Bègles. Ils peuvent faire le match avec La Rochelle normalement parce que c'est très solide et très dense physiquement. Maintenant, je pense qu'ils vont avoir un match de barrage très dur. Physiquement, ils vont lisser des plumes. Et les mecs, ils n'ont même pas une semaine pour récupérer avant d'aller en demi-finale. Et je ne sais pas comment on échappe à un Toulouse-La Rochelle en finale, en fait. Mais ça me paraît dur, quoi. Donc, moi, effectivement, je donne le Stade français, à la différence de vous, mais sur pas grand-chose, et je sais même pas sur quoi, en fait, parce que sur le fait qu'ils jouent à domicile, sans doute, et Lyon. Plus
Et
convaincu.
tu les vois pas taper La Rochelle, Lyon, sur la fraîcheur en fait.
Bah, ils seront pas frais du tout, quoi.
Ouais.
C'est le problème. C'est le problème.
Après, au-delà de
Ils ont été obligés de
au...
jouer le match contre Bayonne à fond. Ils vont jouer le match forcément de barrage à fond. À La Rochelle, ils ont envoyé l'équipe C là. Ils sont au repos la semaine prochaine.
Ouais. Ils ont
Bah,
3 semaines de repos, quoi.
comme le Stade Toulousain, ouais.
Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler que le Stade Toulousain et cette semaine est en stage à Faro au Portugal. Voilà. Je ne sais pas si on aura les loisirs d'aller les voir. Moi, j'ai cours, a priori, mais de temps en temps, je fais cours. Donc, ça va être compliqué. Mais
C'est peut-être eux qui vont venir te voir.
ouais, mais bien sûr, ils attendent que ça.
Ouais.
Ils sont sur le qui-vive. Ben, je vous propose de passer au deuxième prono qui nous intéresse cette semaine. Une affiche très, 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 très alléchante puisque c'est un derby de Manchester en finale de la Cup, donc contre ben, Manchester United et Manchester City. Il y a sur le papier, il y a un très, très gros favori, donc Dani, City ou United?
Bon, il n'y aura pas de surprise pour moi. Je pense que City va clairement éteindre United sans aucune surprise.
Ils leur mettent une branlée, quoi.
Peut-être pas une branlée, mais voilà, ils vont faire le boulot et ça va se solder par une victoire de City sans aucune surprise. Je ne vois vraiment pas United créer vraiment la surprise de battre City cette année. En plus, ils sont hyper motivés, les gars. Ils gagnent le championnat. Là, ils ont la finale de la Champions League à préparer. Pour eux, ça va être un match d'entraînement, quoi,
Quel score?
avant la finale.
Quel score?
4-1.
Ah ouais, quand même. Giancarlo?
Est-ce que Cantona
Non.
joue? Bon,
Ni
alors je pense que
Gabriel Obertan.
si. Donc je pense que City va gagner. Je pense que City va gagner aussi. La seule chose qui pouvait me faire douter, c'est la proximité avec la finale de la Ligue des Champions. Mais bon, il joue pas. Je me demandais s'il allait mettre l'équipe type et mettre tous les titulaires. Parce que ça se joue quand? Ça se joue samedi, là?
Ça joue le 3, ouais, ça joue samedi. Bah, moi, c'est le débat que j'ai aussi. Je ne sais pas
Bah,
qu'est-ce qu'il va laisser. Est-ce qu'il va leur laisser 15 jours de repos à ces joueurs ou pas? Parce que l'Inter, ils
c'est
sont
un bon match
sérieux.
d'entraînement.
L'Inter, ils n'ont plus rien à jouer. Ils sont sûrs d'être en Ligue des Champions. Donc la semaine prochaine, l'Inter,
Mais
ils
il
vont tout
va.
le monde au repos.
Ouais, avantage
Mais
City, ouais, même
Guardiola,
si.
il a l'opportunité de
Mais par
garder
contre,
le
je vois
rythme des
des buts.
joueurs. C'est un bon match d'entraînement.
3-2, 3-2 City. 3-2 City. Ils vont être menés, même. Ils vont être menés. Et
Moi,
ils
les
vont
gars,
gagner 3-2.
je suis très partagé. Bon, déjà, ces deux équipes, bon, elles se sont affrontées, bon, évidemment, deux fois en championnat. Il y a une victoire pour City 6-3. Il y a une victoire pour United 2-1. Bon. Donc, sur l'année en championnat, on n'est pas trop avancé. Bah, si, au goal average particulier, City sont largement devant, mais ils sont une victoire chacun. Moi, c'est effectivement la proximité avec la Ligue des Champions qui m'intrigue, qui m'interroge. Si c'était pas, s'ils n'avaient pas la finale Ligue des Champions derrière, vous direz sans aucun problème City. Qui va aligner? Est-ce qu'il va faire tourner? Pas tourner. S'il fait pas tourner, s'il aligne les titulaires, est-ce que les titulaires vont s'engager à 100% au risque de se blesser, de rater le sommet de la saison? City, ils ont pas. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une équipe de rêve, mais je trouve que devant, ça manque de tueurs comme ils avaient à l'époque. Ils n'ont plus Antoine Sibierski, hein, parce que bon, Dani veut pas le placer, donc je vais faire le boulot à sa place. Donc, voilà.
Attends, on n'a pas fini avec Nantes. J'avais parlé de Antoine Sibierski à Nantes. Ils avaient besoin
On
Ah
l'a
merde!
passé
C'est ma conclusion.
Donc,
C'est ma conclusion. Bonne chance à Nantes.
voilà. Non, moi je pense que mine de rien, on a les deux équipes de la saison en Angleterre. C'est-à-dire qu'on a soit on a une équipe qui va faire le doublé, soit on a une équipe qui va faire le triplé. Voilà. Parce que je vous rappelle que United, ils ont déjà gagné un titre, hein, mine de rien, ils ont déjà gagné la Coupe de la Ligue cette année. Contre Newcastle en finale, il me semble. Donc, ils n'ont rien à perdre, United. Ils vont jouer le coup à fond. Mine de rien, ils font une belle saison. Ils ont une belle équipe. Bon, c'est sûr que City, ils ont le triplé dans les têtes. Mais moi,
Ils ont plus la Ligue des Champions.
je pense que United va gagner sur un match. Ils peuvent gagner. Ils vont gagner 2-1. 2-1, même si ils ont plus de renards des surfaces comme ils avaient à l'époque, là, les Dwight York,
D'avoir souffert.
Toto Schillaci, tu vois, donc. Et dernier match, on verra si ça passe en temps, sinon je couperai au montage parce que c'est pas le match qui passionne les foules. Donc, en Liga, on a un magnifique Valladolid-Retafe en dernière journée. Une finale
Allez,
pour la
ciao, Thomas.
descente,
Bonne
puisque
soirée.
Valladolid est 18e et Retafe est 16e. Il y a un point d'écart, donc celui qui perd va descendre, a priori. Donc, Dani,
Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on en a?
je connais ta
Qu'est-ce qu'on en
passion.
a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre?
Écoute, moi, je sais pas, en tout cas, Valladolid va jouer à domicile, hein, donc
Et
le
lui, il
facteur.
parle, et lui, il va te parler 10 minutes. Ouais, Valladolid,
Et
machin, quand même, je m'en
ouais, non, ils
souviens.
jouent à domicile, donc ils ont le facteur domicile, donc. Ils ont tout pour. Ils vont avoir leurs supporters qui vont être derrière eux. Donc, non, je pense que Valladolid va
Tu crois
l'emporter.
même
Par
pas à ce
contre,
que tu dis.
attends,
Tu crois même pas à ce que tu
attends.
es en train
Non,
de
mais
dire.
par contre, non, les gars, il y a pire que ça. Je pense que vous avez oublié un paramètre, c'est qu'il y a Almeria qui va jouer contre l'Espagnol. Et Almeria, au goal average, sont pires que Valence, donc, que Celta Vigo. Donc, du coup, ça veut dire que si Almeria perd contre l'Espagnol, que
Celta Vigo,
Valladolid
mais ils sont en
gagne.
Ligue, ils sont en Liga B, Celta Vigo déjà.
Non, ils sont 18e, Celta
Non, pas du
Vigo.
tout. Non,
Ah ouais?
ils sont
Ah,
17e, ils sont 17e.
17e, oui, c'est le premier non
Donc, du
relégable,
coup,
Celta Vigo.
ouais. Donc, même si Retafe perd contre Valladolid, Almeria, en perdant contre
Non,
l'Espagnol, bah, c'est Almeria qui descend.
mais
Ouais,
Almeria, ils vont pas faire contre l'Espagnol.
merde.
Bah, tout ça pour dire que
Mais
même
t'en sais
si
rien,
ça arrive,
toi.
les
Mais
Spaniards, ils sont
t'en
déjà
sais
condamnés.
rien,
Alors attendez,
Eddy.
moi je vais vous faire une vraie analyse footballistique.
Allez,
Je pense que Valladolid,
vas-y,
ils vont gagner
balance.
contre Rétafé, ils ne vont pas descendre parce que Valladolid, déjà, c'est le club de R9, on le sait. Hein. Ils sont présidés par R9 et voilà, ça sent le football, ça sent le passement de jambes et tout. Et puis surtout, donnée très importante, Valladolid, ils jouent en violet et blanc. Et cette année, les violets et blancs.
J'étais sûr que t'allais placer ça.
Ça, c'est important.
Donc voilà, donc je connais aucun joueur de Valladolid, mais je vais donner ni de Rétafé. Mais je
C'est
donne
Bioman, en fait, c'est
Valladolid, je
Bioman.
donne
Je pense que c'est
Valladolid
violet.
vainqueur 2-0, parce que tu ne nous as pas donné ton score sur le match quand même.
Mais tu veux le score de quoi?
Bah de Valladolid Rétafé, pas du nombre de crêpes qu'a fait ta grand-mère, j'en sais.
Allez, moi je dirais 2-0 pour Valladolid.
Ok. Giancarlo, on va pas insister.
Non, mais
Tu fais tapis?
putain,
Tu tapis sur ce
force à
match?
Rétafé. Force à
Hein?
Rétafé, ils étaient européens il n'y a pas si longtemps, ces mecs-là, quand même.
Il y a longtemps,
Force
quand
à
il y avait
Rétafé.
Roberto Soldado.
C'était quoi, il y a 4 ans, 5 ans?
Je sais pas, Soldado, il est parti il y a combien de temps?
Ouais, hey, 0-0.
Ouf!
Oh
Ouf!
putain. Bah là, c'est Almeria qui descend alors.
Mais non, Almeria, il descend pas. Valladolid, il reste derrière. Valladolid,
Merde.
derrière Almeria. Il faut qu'Almeria perde pour descendre. Ils ne perdront pas contre l'Espagnol Barcelone. L'Espagnol Barcelone, c'est une équipe qui sont déjà en Ligue 2.
Ben ça, t'en sais rien.
Écoute, ce pronostic me passionne tellement que je joue aux cartes. Tu vois?
Bon, en tout cas, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je pense que ça va être. Je pense qu'on sera très très nombreux devant ce match entre Valladolid et Rétafé. Hein. En tout cas, moi, je.
Oui,
Ça se joue à quelle heure? Parce que
avec des
peut-être
tapas.
que c'est pendant qu'on est à la crémaillère chez Victor, on ne pourra pas le voir. Quel dommage.
Préparer les tapas.
Pour quelle heure est-ce? Bon. En attendant,
Fradel.
je vous souhaite une bonne semaine, une belle finale d'Europa League. On remercie Jules Koundé de sa présence. Hein, il est là, regardez. Coiffé en Jermaine Jackson. Et je vous dis à la semaine prochaine, donc on fera une longue page sur la finale de Champions League qui s'annonce passionnant entre les deux équipes préférées de Giancarlo, l'Inter de Milan, hein, sur l'équipe de son cœur, et le Manchester City de Guardiola, l'entraîneur de son cœur. Donc il va passer une très très belle finale, mais on a le temps d'en parler la semaine prochaine.
Moi, ben, je regarderai Valladolid Rétafé enregistré ce soir-là.
D'accord. Je te proposais de vous faire un débrief tactique de ce match. Et ça, ce n'est pas tactique.
On l'attend avec impatience.
Ciao les gars.
Et bientôt sur les antennes de la French Radio. Bonne semaine et à la semaine prochaine.
Allez. Ciao, bonne
Allez,
soirée.
ciao, ciao. Ciao.